Bene, ora la terza comunicazione di questa prima sezione è di Laurent Mauve, che è un collega dell'Università di Amiens, è uno studioso di Spinoza. Ricordo qui un testo, La stratégie du Conatus, e ha realizzato anche un'edizione critica del Trattato politico. Oggi presenta una comunicazione dal titolo A quoi est-il un corps, l'exigence politique de la puissance.
Bien. Ben, je vous remercie et je vous remercie pour l'invitation à ce beau colloque ainsi que Francesco Toto et Pierre-François Moreau. Alors, pour répondre à la question à quoi est tenu un corps selon Spinoza, je vais traiter de fait de la question de la prudence des corps. En introduisant la notion de prudence dans une réflexion sur le corps, je souhaite montrer combien cette notion qui parcourt le texte de Spinoza en pointillé à travers différentes expressions, causio, cautus, prudes, prudenter, prudentia, combien cette expression est opératoire afin de penser une réelle continuité théorique, et Julie a dit déjà l'essentiel là-dessus, entre un modèle épistémologique du corps de nature physique et une connaissance des corps de nature historique. Mais combien aussi cette continuité dans la construction du savoir ne donne en réalité aucun privilège ni aucune primauté au physique sur le politique ou sur l'historique, mais que les différents savoirs qui portent sur les corps, physique, politique, historique, doivent être eux-mêmes pris et compris dans une ontologie générale qui est celle de la complexité du réel. De cette logique, Spinoza fait la théorie avec le concept de conatus comme puissance d'exister et d'agir de toute chose, puissance qui est aussi une puissance causale. Et en premier lieu, la puissance à constituer toute chose, et les corps en particulier, puissance aussi à produire dans et par son organisation la rationalité des choses elles-mêmes, au sens où il y a des corps avec des degrés différents de puissance de rationalité, degrés corrélatifs de leur degré de complexité. Mon objet, afin de comprendre la continuité théorique de la prudence des corps de la physique à l'histoire, va être d'examiner cette articulation de la complexité du réel ou du réel lui-même comme complexité avec une pensée de la puissance qui est aussi celle de la logique, de la persévérance des choses selon des processus d'alliance et de résistance. L'hypothèse que j'ai depuis longtemps déjà développé, c'est de lire dans le conatus spinoziste une ontologie de la prudence ou de la stratégie immanente des choses, stratégie immanente au rapport de force dans lesquels ces choses sont prises. Mais une prudence ou une stratégie indépendante de toute téléologie, d'où un usage paradoxal dans l'étude des corps, d'une prudence sans finalité, et sur le terrain de la politique et de l'histoire, d'une prudence qui doit être pensée en deçà de l'espace de la représentation de la loi, ainsi que du couple souveraineté-obéissance. Ce déplacement théorique de la question de l'obéissance à la vérité effective de la prudence des corps est, à mon sens, la rupture la plus profonde de Spinoza avec la politique de Hobbes. En traité politique, Chapitre 4, article 5, Spinoza écrit « Sane causio non obsequium, cette prudence n'est pas une obéissance, sed humane naturae libertas est, c'est la liberté de la nature humaine. » La liberté entendue comme nécessité, celle des processus dynamiques immanents d'affirmation de puissance, comme devenir possible, singulier et autonome. Être sui iuris, relevé de son propre droit, c'est-à-dire de sa propre puissance, ou être alterius iuris, relevé du droit d'autrui, ou être sous sa domination, c'est une distinction fondamentale de Spinoza, en ce que cette distinction précise la définition de la liberté comme autonomie, et en son sens le plus fort, comme libre nécessité, c'est-à-dire raison, aussi bien en ce qui concerne les êtres humains que les corps politiques. Jean Cavaillès, philosophe mathématicien qui se revendiquait spinoziste, et dont Georges Canguilhem a dit que, sous la domination des nazis, il fut résistant par logique, Cavaillès déclarait très justement et assez brutalement devant la Société française de philosophie, alors d'obédience kantienne, autonomie, donc nécessité. On doit dire aussi autonomie, donc multiplicité, autonomie, donc complexité. Spinoza répète sans cesse, on l'a dit beaucoup durant ce colloque, que ce qui fait la puissance d'agir ou d'exister d'un corps et par là même la capacité de ce corps à faire des actions qui dépendent de lui seul, c'est son très grand nombre d'aptitudes à agir et à pâtir de multiples façons à la fois. Ce qui permet aussi à l'âme de ce corps de penser par elle-même. Il ne faut pas cependant céder à une lecture arithmétique de cette complexité, ce qui serait un point de vue imaginatif. Les degrés de complexité d'un corps, ce sont les déterminations positives de l'absolument infini, dans lesquelles et par lesquelles, détermination, l'infinitude du réel, non seulement s'exprime et s'explique, mais aussi se constitue dans et par cette affirmation même. Chaque singularité étant pour Spinoza une manière complexe, précise et déterminée, carto et determinato modo, d'exprimer l'essence ou la puissance absolument infinie de la nature ou de Dieu. Ces manières sont aussi des manières singulières de produire des effets, et des effets servant nécessairement et en dehors de toute téléologie à la conservation. Et chaque être, qui est toujours aussi parfait qu'il peut l'être, déploie nécessairement toujours la meilleure prudence dont il est capable, suivant une puissance causale, non téléologique. D'où la distinction spinoziste, selon ce que peut un individu singulier pour sa conservation, distinction des régimes de sa causalité de la puissance, causalité adéquate ou inadéquate. Même si, il faut le répéter, même dans l'inadéquation, la stratégie d'un conatus est toujours aussi parfaite qu'elle peut l'être. Causalité adéquate ou inadéquate nous donne ainsi une grille de lecture ou d'intelligibilité de tout le réel des choses finies, que ce réel, dans son activité de persévérance, tombe sous le savoir de la physique ou de la politique et de l'histoire. Du point de vue de la logique de la puissance causale d'un corps singulier, conatus et prudence sont alors indissociables. Ces préalables posés, nous examinerons d'abord comment Spinoza introduit la notion de prudence des corps en répondant non pas à la question deleuzienne « qu'est-ce que peut un corps ?» mais à une autre question que je formule ainsi, à quoi un corps est-il tenu? Nous examinerons ensuite comment le conatus du corps comme prudence peut être un modèle opératoire d'explication de la politique et de l'histoire. Première partie, l'introduction de la prudence des corps dans le traité politique. Dans ce texte, l'identité de la prudence et d'une liberté résistante est explicitement posée dans les articles 4 et 5 du chapitre 4. Spinoza traite alors de la question de savoir si le pouvoir souverain est soumis aux lois, s'il peut pécher. Je reprends les trois moments principaux du raisonnement. Spinoza situe d'abord son interrogation dans le champ plus vaste de la législation de toutes les choses naturelles, omnium rerum naturalium. De ce point de vue, le corps politique, comme tous les corps physiques, est lié par des règles et des lois. Autrement dit-il, il ne serait plus une chose naturelle, mais une chimère. De la suite que le corps politique, en tant que civitas, pèche quand il fait ou quand il souffre des actes qui peuvent être cause de sa ruine. C'est-à-dire qu'il pèche quand il agit contre les règles de la raison, qui sont les règles ou les lois de sa propre conservation. L'ordon, dit Spinoza, qu'il agit contre la raison, le corps politique manque à lui-même. Il pèche. Dans le second mouvement du raisonnement, Spinoza écrit que si l'on entend au contraire par loi le droit civil et par péché ce qui est défendu en vertu du droit civil, on ne peut plus dire alors que le corps politique est soumis aux lois, ni qu'il puisse pécher. Car c'est ce corps lui-même qui décide de ses lois, de les faire ou de les défaire. Il n'y est donc pas soumis, ce que Spinoza affirmait déjà dans le chapitre 16, 4 du traité théologico-politique. Le corps politique se trouve donc vis-à-vis du droit civil dans la même situation qu'un individu à l'état de nature n'a qu'à obéir qu'à lui-même en fonction du seul impératif vital qui est celui de sa conservation. Troisième moment, Spinoza ajoute un nouveau paramètre dans le traitement de cette question par lequel s'introduit la dimension historique du corps politique. Il existe en effet dans la cité un ensemble de circonstances, lesquelles étant posées, il en résulte pour les hommes de cette cité des sentiments de respect et de crainte singuliers à l'égard du corps politique, et cela contribue fortement à sa conservation. Le corps politique est alors tenu nécessairement, par nécessité vitale, de maintenir dans son propre intérêt certaines règles, certaines lois, c'est-à-dire une situation d'ensemble ou une condition d'existence qui lui sont propres, car ce sont les raisons ou les causes mêmes de cette crainte et de ce respect particulier qui tiennent la cité ensemble et qui garantissent sa persévérance. Mais cette exigence ou cette nécessité vitale est totalement indépendante de la logique de l'obéissance exigée, elle, par le droit civil et qui ne concerne que les sujets de la cité et non pas la cité en tant que corps politique. La nécessité à laquelle le corps politique est vitalement tenu est certes une condition de l'obéissance de ses sujets. Mais le corps politique n'est pas lui-même assujetti à cette obéissance. Il est tenu à une autre exigence, par nécessité vitale. Spinoza écrit alors que c'est par droit naturel, dont l'exercice est celui d'un droit de guerre, que le corps politique est tenu de maintenir dans son propre intérêt ses règles et ses lois qui constituent sa disposition propre, c'est-à-dire la condition même de sa persévérance en son être. Je cite, « En effet, si la cité, c'est-à-dire le corps politique, est tenue de maintenir dans son propre intérêt certaines règles, certaines causes de crainte et de respect, ce n'est pas en vertu des droits civils, mais en vertu du droit naturel, puisque rien de tout cela ne peut être revendiqué au nom du droit civil, mais seulement par le droit de guerre. »
de sorte que la cité n'est soumise à ses règles que dans le même sens où un homme, à l'état de nature, est tenu, afin de relever de son propre droit, de ne pas être son propre ennemi et de ne pas se tuer. Cette prudence n'est pas une obéissance, c'est au contraire la liberté de la nature humaine. Il y a donc une logique de la prudence du corps qui intègre nécessairement un ensemble de circonstances à dimension historique particulière, mais aussi les dispositions affectives des individus attachés à ces circonstances, ensemble que Spinoza démarque radicalement de la problématique de l'obéissance. Car cette prudence du corps réel est, sur le plan de la théorie, indépendante du champ juridico-politique qui est celui de la représentation de la loi et du sujet de l'obéissance qui lui fait face comme sujet de cette représentation. La prudence indique ainsi un processus réel qui implique la durée d'une persévérance indéfinie, celle d'un corps historique. Les circonstances ont été contractées, incorporéisées, mémorisées dans les dispositions affectives des corps qui forment, dans leur pratique commune, un seul et même corps, qui est celui de la cité, corps qui ne persévère en son être qu'en insistant dans et par les dispositions corporelles et affectives de ses membres. De ce point de vue, on doit dire et on doit lire une véritable ontologie historique de la durée des corps. Dans le traité politique, la notion de prudence des corps intègre l'ensemble des significations de l'œuvre de Spinoza, mathématiques, physiques et ontologiques, en apportant de plus une perspective clairement machiavélienne. La prudence spinoziste des corps, qui est celle de leur droit de nature, se déploie en effet explicitement dans un contexte guerrier de rapport de force. C'est un droit de guerre, dit Spinoza, qu'il s'agit de ne pas retourner contre soi, qu'il s'agisse de l'individu humain ou du corps politique, afin de ne pas devenir son propre ennemi, afin de ne pas se tuer. Ce droit de guerre est donc de fait des plus rationnels, puisqu'il doit permettre au corps politique d'agir selon les règles de la raison et par là même de relever de son propre droit. Cette prudence est donc une stratégie par laquelle le corps politique est tenu, et cela je le répète en dehors de toute finalité, de ne pas manquer à lui-même. Être tenu de ne pas manquer à soi. Examinons ces deux expressions qui font écho à la question posée en titre. À quoi est tenu un corps? Tenetur, être tenu de. Lorsque Spinoza emploie l'expression pour la première fois, dans l'article 2 du chapitre 1 du traité politique, la signification est celle du devoir moral. Les théologiens soutiennent que les pouvoirs souverains doivent, tenetur, traiter les affaires publiques selon les mêmes règles morales que celles qui s'imposent aux particuliers. Mais, dès la seconde utilisation, en traité politique 2.18, tenetur prend le sens d'une exigence vitale, celle enveloppée par la nécessité même du droit de nature. Spinoza écrit: dans l'état de nature, il n'y a pas de péché, ou si quelqu'un pêche, c'est envers soi-même, et non envers autrui. Si bien que si chacun est tenu, au sens de l'exigence vitale, de ne pas pécher, c'est-à-dire de ne pas agir contre soi-même, nul dans l'état de nature n'est inversement tenu, au sens moral, d'obéir à qui que ce soit. Dans le chapitre 4, aussi bien dans l'article 4 que dans l'article 5, c'est dans le sens de l'exigence vitale qu'est utilisée la notion. Je cite: le corps politique, pour relever de son propre droit, est tenu, tenetur, de conserver les causes de crainte et de respect autrement il cesse d'être. C'est un impératif vital qui fait directement écho au chapitre 15 du Prince de Machiavel. Machiavel écrivait en effet « Il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre, là il s'agit de l'impératif moral, que celui qui laisse ce que l'on fait pour ce qu'on devrait faire apprend plutôt sa ruine que sa conservation. Aussi est-il nécessaire et nécessaire un prince, et là il s'agit de l'exigence vitale, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon et d'en user, de n'en user pas, secondo la necessità, selon la nécessité. C'est-à-dire selon une nécessité qui est celle du réel lui-même, de la guerre et des rapports de force, nécessité qui exige de mettre en œuvre une autre nécessité, celle du droit de nature ou du droit de guerre, comme chez Spinoza, ou celle du è necessario, du prince de Machiavel, de pouvoir ne pas être bon. C'est la nécessité d'une prudence ou d'une stratégie. Mais chez Spinoza, la prudence du prince machiavélien est devenue ontologique, inhérente ou immanente au réel lui-même, dans sa détermination causale, non téléologique, à la fois physique et historique. La seconde expression, iatenus sibi deficit, par laquelle Spinoza dit que le corps politique peut se manquer à lui-même, se trouve dans l'article 4 du chapitre 4 du traité politique, comme elle est déjà aussi dans le chapitre 24, alinéa 3, du prince de Machiavel, et cela dans un contexte identique. Chez Machiavel, comme chez Spinoza, cette expression est en effet utilisée dans le contexte des choses que le prince ou le corps politique, dans l'exercice de son pouvoir souverain, peut faire ou ne pas faire, avec pour seule limite la résistance de la nature des choses et le tort que l'on peut porter à soi-même par des actions inconsidérées, inadaptées, inajustées, bref, stratégiquement désastreuses pour la conservation de l'individu. La notion spinoziste de prudence des corps s'inscrit donc explicitement dans une logique machiavélienne qui est celle des rapports de puissance et des stratégies immanentes que ces puissances développent dans et par leurs affirmations antagonistes. Dans cette perspective, le projet du traité politique, à partir de son chapitre 6, sera ainsi de concevoir une prudence intrinsèque, suivant l'expression machiavélienne des discorsi, des différentes formes de corps politique. Prudence étayée sur des stratégies institutionnelles et affectives de contre-pouvoir et de résistance active à toute logique de domination, résistance qui se forme ou qui se fonde sur un droit de guerre. Ce qui nous conduit à la seconde partie de cet exposé, la prudence comme modèle d'explication de la politique et de l'histoire. Constatons d'abord qu'il existe chez Spinoza un concept politique de la complexité comme corps, vous le savez bien, c'est le concept de multitude. Concept dont il faut souligner en premier lieu, avec Spinoza lui-même, l'ambivalence, et une ambivalence qui va marquer toute l'approche spinozienne de l'histoire. Ce que dit Spinoza de la multitude dans le chapitre 17, paragraphe 4 du traité théologico-politique, est au premier abord extrêmement négatif. Je vous rappelle le passage. Ceux qui savent à quel point est diverse la complexion de la multitude en désespèrent presque, car elle se gouverne non pas par la raison, mais par les seuls affects. Désirant tout aveuglément, elle se laisse très facilement corrompre par la cupidité et le luxe. Chacun pense être le seul à tout savoir et veut tout régler selon sa complexion. Il estime quelque chose juste ou injuste, sacrilège ou non, licite ou illicite, selon qu'il pense en retirer quelque avantage ou dommage. Par vaine gloire, Il méprise ses égaux et ne supporte pas d'être dirigé par eux. Ce qui est affirmé ici, c'est un enseignement de l'expérience et de la raison, ou encore ce que l'on peut appeler une vérité effective sur laquelle vont s'appuyer les politiques pour gouverner, dominer la multitude. Mais c'est aussi une vérité effective sur laquelle s'appuie Spinoza lui-même quand il enseigne, inversement, que les hommes ont dû d'abord constituer un corps commun qui est celui de la démocratie. Parce qu'il y a une lecture positive, bizarrement, de ce passage et dans le texte de Spinoza lui-même. En effet, c'est par le désir rebelle et résistant de ne pas vouloir être dirigé par ses égaux semblables qu'une multitude libre peut réaliser par elle-même l'unité en son sein par un consensus sur la forme de son gouvernement, à savoir la démocratie. Société dans laquelle, écrit Spinoza, personne n'aurait à obéir à son égal. La démocratie règle donc le problème du refus d'obéissance. Mais c'est en extrayant le corps de la multitude de la problématique même de l'obéissance, qui est ainsi abandonnée pour une problématique de la prudence de ce corps, c'est-à-dire de la puissance stratégique d'une auto-organisation du divers et d'une augmentation indéfinie de la complexité du corps commun. En effet, aux antipodes des deux modèles de la servitude radicale, que sont l'État hébreu et l'État turc, deux modèles d'une clôture elle-même radicale de l'histoire, Spinoza développe une conception de la démocratie comme corps qui suppose que la prudence ou la logique stratégique d'auto-organisation autonome de la puissance de la complexité du corps commun permettent au singulier qui constitue ce corps d'être affecté et d'affecter autrui d'une multitude de manières, de telle sorte que dans cette très grande diversité de la communication du mouvement entre les singuliers s'affirme une dynamique d'augmentation indéfinie à égalité mais différentielle de la puissance d'agir et de penser de chacun. L'idée de démocratie chez Spinoza est alors la condition même de la possibilité d'une « histoire » entre guillemets des hommes capables en commun de constituer un corps prudent, c'est-à-dire une causalité adéquate. Ainsi, partir réellement de la complexité ou de la vérité effective des corps pour penser l'histoire, c'est substituer au modèle de l'obéissance rationnelle l'enchevêtrement productif des prudences ou des processus immanents, prudents, résistants, singuliers, déconatus. Et là est la question politique et stratégique majeure, un problème de prudence ou de constitution immanente de la liberté des hommes dans l'histoire, ou inversement de sa destruction dans et par les rapports domination-servitude, et non pas une question d'obéissance. À l'inverse de Hobbes, qui réduit le corps de la multitude et sa complexité au moule de la loi et du sujet de droit qui lui fait face, Spinoza nous invite à penser la politique et l'histoire à partir des dispositifs de puissance du corps commun, dispositifs qui permettent l'expression d'un certain régime de la nécessité du complexe dans et par son aptitude à produire, de manière immanente, une raison politique commune. Comme pour l'âme humaine dont l'aptitude aux idées vraies est corrélative de la très grande aptitude d'un corps à affecter et à être affecté de multiples manières, le corps politique spinoziste n'advient à la stratégie adéquate ou causalité adéquate du conatus qu'en corrélation d'un certain régime de la complexité de la multitude, qui est ainsi le véritable creuset de la raison politique et commune de ce peuple. Pourtant, ce modèle de progrès, de la complexification indéfinie du corps commun, est battu en brèche par la réalité effective d'une logique historique des corps que Spinoza décrit bien au contraire comme le mouvement inéluctable d'une fermeture, d'un appauvrissement ou d'une véritable infirmation du corps politique. Et cela par impuissance de ce corps collectif d'intégrer ceux qui sont considérés comme des corps étrangers. C'est en effet à l'avènement de la conscience de soi de l'État, qui est vécue comme une propriété nationale, et cela face au phénomène de l'afflux des étrangers et à l'invidia collective que cela déclenche, que le mouvement démocratique réel et émancipateur de la constitution du corps de la vie commune se voit enrayé par cette forclusion historique et juridique des différences. L'égalité réelle des singuliers, devenant alors l'égalité civile des sujets citoyens devant la loi, dans et par la clôture juridique du champ de l'égalité politique. C'est ce qu'explique Spinoza en Traité politique 8-12. L'avènement de la conscience de soi de l'État comme corps national fait obstacle à la dynamique complexifiante indéfinie du corps démocratique. Le grand intérêt philosophique de Spinoza, sa lucidité théorique et politique, c'est qu'il n'écrase jamais les niveaux de réalité des corps auxquels nous donnent accès ces concepts. Multitudinis potentia, civitas, imperium, natio. Spinoza ne les traite jamais idéologiquement comme un seul originaire ou comme des formes transcendantales de l'identité. Il les traite comme des produits immanents d'un processus historique. Un processus dans lequel et par lequel se noue la loi de l'histoire, c'est-à-dire une loi d'organisation d'un corps, une disposition particulière. Dans l'éthique, cela n'a rien à voir, mais Spinoza dit « dispositio seut conatus », c'est éthique 3, définition 32 des affects, explication. Cela veut bien dire que dans l'historicité des choses, le conatus devient une disposition particulière. Si sur le plan de la théorie politique, disposition au sens dynamique, si sur le plan de la théorie politique on écrase les niveaux, naturellement on a une philosophie politique, une historiographie extrêmement réactionnaire. Ça a été le cas d'un disciple de Spinoza qui s'appelle Boulainvilliers, qui lit l'histoire de France de cette manière. Alors je vais terminer. Il est vrai que la nation, qui est une imagination, est réellement et historiquement une figure nécessaire et ambivalente de la constitution de la civitas, hein, et son conatus particulier. De ce point de vue, il faut tenir compte, de fait, de cette persévérance conservatrice pour non seulement comprendre l'histoire des corps politiques dans leur logique inertielle, c'est ce que fait Spinoza quand il analyse, du moins il évoque la révolution anglaise, mais il faut en tenir compte également pour intervenir dans les luttes politiques et historiques, comme c'est le cas de Spinoza quand il rappelle que les provinces unies n'ont jamais connu de roi. Ou encore, en tenir compte pour penser politiquement les formes de vie communes à construire dans l'avenir qui garantiraient l'émancipation indéfinie des hommes. C'est ce que fait Spinoza à partir du chapitre 6. Donc, le regard de Spinoza sur l'histoire est donc marqué par une tension entre ces deux modèles de la prudence et de la persévérance des corps, celui ouvert d'une ontologie de la puissance de la multitude et de la dynamique auto-organisatrice indéfinie de sa complexité, et celui du conatus comme persévérance in suo statu, des corps particuliers liés par une loi de l'histoire, des corps qui, absolument parlant, sont voués à un retour indéfini et conservateur à leurs principes. On peut dire que la pensée politique et émancipatrice de la possibilité d'une causalité adéquate des sociétés dans l'histoire devra tenir compte de ces deux aspects de la persévérance des corps, et je pense que c'est la leçon de prudence
réformatrice du traité politique. Je vous remercie.
Bene, molte grazie a Laurent Bove per questa bella e interessante comunicazione e questo rapporto fecondo che ha stabilito con il pensiero di Machiavelli, tra Machiavelli e Spinoza, e forse ha fatto capire ancora di più quanto l'ateismo di Machiavelli abbia concepito l'indipendenza della politica dalla morale proprio in senso ontologico, di una politica che è costituzione della salvaguardia dell'esistenza umana.